le temps buissonnier. Le temps buissonnier emprunte aujourd'hui les chemins de la poésie pour le 19e printemps des poètes dédié cette année à la poésie africaine francophone. Le temps buissonnier partagé donc aujourd'hui avec Jean-Pierre Siméon, son directeur artistique, et Nassim Belzari-Antar, Damanfi Camara et d'Olivera Nundi, qui sont trois jeunes de la classe d'accueil qui accueillent des réfugiés et des migrants au lycée Charles Baudelaire d'Evry. Leur professeur est là, Jolie Maton. Donc tout ce monde-là va essayer de voir comment ce 19e printemps des poètes a mis un S à Afrique. Carmela et son griot Negrito sont venus à Paris samedi dernier pour, je les cite, « transformer les pierres de haine en haies de pierres protectrices ». Mais quelle pierre, Carmela ? Les pierres de haine, oui, ces énormes pierres de Loire qui jadis furent utilisées pour construire le château de Versailles ou le Paris haussmannien, celles que la ville de Paris, la maire de Paris, a fait déverser à l'endroit précis où les réfugiés condamnés à dormir dehors pouvaient s'abriter un peu de la pluie sous le pont Porte de la Chapelle, enchaîna Negrito. Tu aurais dû venir samedi matin, tu sais, me dit Carmela. Des tailleurs de pierre, compagnons du devoir, mais aussi des droits, si on en juge par leur action, sont venus de toute la France pour déplacer et graver ces énormes pierres en hommage au courage de tous ces exilés qui, au péril de leur vie, arrivent dans nos villes. Parmi ces pierreux, comme ils s'appellent, arriva un jeune tailleur de pierre iranien. En fait, il était afghan, mais il était né en Iran. Et là, il est en exil en France depuis 4 mois, sans papier. Le maître compagnon l'accueillit très chaleureusement, le présenta à tous et prit ses outils pour commencer à tailler un rocher. Puis, se tournant vers lui, vers le compagnon iranien donc, il lui céda les outils et l'invita à poursuivre la trace sur la pierre. Ce rituel nous a émus aux larmes avec Negrito. Negrito voulait graver lui aussi une citation de René Char. « La dignité d'un homme, seul, cela ne s'aperçoit pas. La dignité de 1000 hommes, ça prend l'allure d'un combat. » Et moi, poursuivit Carmela, encore toute rouge de rage, je n'ai pas eu le temps de graver le poème d'Abdelatif Lahabi avant l'évacuation de la police venue protéger les pierres de haine. Si tu veux bien le lire à tes auditeurs, ça me calmerait un peu. Alors voilà, je vous le lis donc, c'est « La saison de l'attente » d'Abdelatif Lahabi, qui trouva refuge, lui aussi en son temps, en France, à sa sortie des geôles marocaines. Ce fut la saison de l'attente, dure, longue saison, torride hiver coalisée contre la germination, le délire inventif des fièvres, dure, longue saison, offrant cette paroi visqueuse où l'on ne peut enfoncer un clou, suspendre des amulettes ou se cogner la tête. L'attente, plus haute souffrance, moins la dignité, et le plus douloureux, on le saura, c'est qu'elle ne tue pas. À côté d'elle, l'apocalypse est un jeu d'enfant. Jean-Pierre Siméon, directeur artistique, 19e printemps des poèmes, des poètes et des poèmes d'ailleurs. Cette année, vous avez choisi l'Afrique. C'est pour ça que j'ai pensé à ce grand poète qui a trouvé exil, qui maintenant peut retourner au Maroc, oui. et qui nous parlait de cette saison de l'attente terrible pour tous ceux qui attendent de rentrer dans leurs droits, dans leur dignité humaine, tout simplement.
Oui, j'ai choisi le thème de l'Afrique. Ça fait longtemps que j'y pense. Parce que, tout simplement, il y a une immense poésie africaine, multiple, diverse, évidemment, comme est diverse l'Afrique, et qu'on la connaît mal. Et le plus scandaleux, c'est qu'elle utilise notre langue la plupart du temps, puisqu'une grande partie de l'Afrique est francophone, et qu'elle produit des poètes francophones, et qu'on ne les connaît pas à la hauteur de ce qu'ils méritent. Voilà donc, depuis longtemps, je voulais cette ouverture sur la poésie francophone d'Afrique. Donc, c'est l'Afrique du Nord, dont Aladatif Lahavi est un magnifique exemple. On connaît bien, par exemple, notre ami Massim qui est marocain, il vient d'un pays de grands poètes. Hein, vous savez bien que, par exemple, Ben Jelloun vient de là-bas, n'est-ce pas, et tellement d'autres.
Et les poètes sahraouis qu'on oublie sahraouis, et qui sont malheureusement torturés aujourd'hui par les Marocains.
Donc on connaît bien les poètes d'Afrique du Nord, peut-être plus facilement Tahar Bekri le Tunisien par exemple, mais il y a beaucoup de poètes dans l'Afrique subsaharienne et il y en a qui sont vraiment éminents. Nimrod, poète tchadien, va être publié chez Gallimard cette année en poche là à l'occasion du Printemps des Poètes, mais il y a par exemple Tanella Boni, l'ivoirienne.
Je pensais à Birago Diop aussi.
Birago Diop, mais vous savez, dans l'histoire, c'est plus ancien, mais dans l'histoire de l'Afrique, il y a de grands poètes à l'histoire du XXe siècle notamment. Écoute, et Senghor, poète sénégalais, c'est quand même une des plus grandes voix de la poésie francophone du XXe siècle. Et vous voyez, on a tendance à l'oublier. J'ai mis en avant deux voix cette année, parmi tous les poètes africains qu'on va découvrir. Beaucoup me disaient d'ailleurs « Ah, mais l'Afrique, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que ça, comment on va faire ?»
Ah oui, il y avait des résistances.
Oui, non, mais pas des résistances, mais c'est cette impuissance-là, peut-être cette gêne, mais on ne connaît pas les poètes africains. Ben, je dis, c'est justement pour ça que je propose ce thème, c'est pour qu'on les découvre. Alors, je mets deux poètes en avant, c'est Chikaya Outamsi et Senghor, parce que l'un est le fils rebelle de l'autre. Outamsi était plus jeune, plus virulent, mais plus rebelle, sans doute, oui. Ceci dit, ils ont tous les deux cette capacité extraordinaire à s'emparer de la langue française et à en faire quelque chose d'autre. Alors, l'un, c'est par Senghor, c'est par l'excellence, si je veux dire. Il hausse la langue à un niveau d'harmonie et de justesse qui est, à mon avis, l'égal d'un Saint John Perse ou d'un Claudel, par exemple. Et de l'autre côté, Outamsi, lui, il prend le français, il le bouscule, il le casse, il le concasse, vous voyez. Et il serait de plus dans une parole de l'interjection, de l'interpellation. Voilà. Et je trouve que c'est formidable que, quand on pense à Césaire, puisqu'on pense aussi aux Afriques lointaines, celles qui sont parties par nécessité, n'est-ce pas, de leur continent, on parle de toutes ces Afriques-là. Eh bien, moi, c'est ce que je voudrais faire entendre. C'est que ces gens-là ont accueilli le français. Vous voyez, nous, on a du mal à accueillir les Africains qui viennent ici. L'Afrique a accueilli le français. Alors, petite, hélas de force, mais en fait, elle a fait quoi de ce français? Elle l'a augmenté. Elle l'a enrichi. Voilà. Et c'est ce français enrichi que, oui, par des rythmes, par des souffles, par un lyrisme imprévu chez nous, par toute une histoire, parce que l'histoire de la poésie africaine est ancienne. Il y en a qui disaient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Moi, j'ai découvert, en m'intéressant à tout ça, qu'il y avait de la poésie africaine depuis le XIVe siècle. Par exemple, une femme poète africaine rwandaise au XVe siècle, n'est-ce pas, mais qui a créé elle-même le Collège des Poètes. Oui, donc l'histoire de la poésie en Afrique est très ancienne.
Alors, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons autour de cette table trois jeunes gens qui représentent cette Afrique-là, multiple, puisqu'il y a un S à l'Afrique du 19e Printemps des Poètes de cette année. Et nous avons, par exemple, d'Olivera Ndoundi, qui vient du Congo. Et là, vous avez choisi de lire un texte de Jean-Pierre Siméon.
Oui.
Donc vous allez lire un extrait de ce texte, puis après je vous poserai peut-être une question.
Ma prière. Voilà comment commence ma prière. J'aime que le matin blanc pèse à la vitre, et l'on tue ici. J'aime qu'un enfant courant dans l'herbe haute vienne à cogner sa joue à mi-pomme, et l'on tue ici. J'aime qu'un homme se pèse à mes seins et que sa poitrine soit un bateau qui porte dans la nuit, et l'on tue ici. J'aime qu'on bavarde à la porte du boulanger quand il n'y a d'autre souci que le bleu du ciel étendu sous la théorie des nuages. Et l'on tue ici. J'aime qu'à quelques-uns, on s'ennuie paisiblement à observer le vent dormir sous le toit de la ville. Et l'on tue ici. J'aime qu'on bâtisse une fleur pour la fleur dans le loisir insipide du jardin. Et l'on tue ici. J'aime que la pierre roule dans la rivière et que cela fasse un bruit de clarinette. Et l'on tue ici. J'aime que les heures ne soient que le temps qui passe pour faire les heures. Et l'on tue encore, ici, encore.
Merci d'Olivera Ndoundi. Vous l'avez choisi, ce poème?
Oui.
Pourquoi vous l'avez choisi?
Ben, parce que je l'ai trouvé beau.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement?
Il me touche parce qu'il exprime en quelque sorte les émotions, une certaine liberté. C'est ce qui m'a permis de choisir.
Merci. Jean-Pierre Siméon, ça fait quoi en tant que poète?
C'est très, très émouvant. Et puis, en plus, il y a une comédienne, Yaya, qui joue avec la troupe de Schiaretti, la tragédie du roi Christophe en ce moment, celle de le texte de Césaire, et qui joue le Stabat Mater Furiosa, dont est extrait ce texte, qui le joue en Afrique beaucoup. Il l'a joué, je ne sais plus, dans plein de pays d'Afrique. Et donc, ça m'émeut de savoir que ce texte, maintenant, est là-bas. Et j'adore l'entendre dans la voix de cette jeune fille, qui a quand même un mérite incroyable. Vous savez que ces trois jeunes gens sont allophones. Ils sont arrivés à cet été, ici. Alors vraiment, c'est incroyable de voir comment déjà ils maîtrisent le français. Quand je pense à notre paresse à nous, à apprendre les langues étrangères, vous voyez, bravo.
Ou à s'intéresser à la poésie.
J'admire ça. Aussi. Oui, mais vous voyez comment aussi la poésie peut être, mais ça, leur professeur en parlera, donc je trouve le travail admirable, comment la poésie peut aider à s'emparer du français, à le comprendre dans son essence.
Et ça, c'est tout le travail du Printemps des Poètes, qui n'est pas juste ce moment où il est visible dans les médias, dans les rues, dans les théâtres, un peu partout en France et au-delà, mais toute l'année où il y a un travail, des partenariats qui sont faits avec... et ça, c'est très important.
Par exemple, ça, c'est un bon exemple. C'est une initiative que nous avons prise, ça s'appelle « Dis-moi un poème ». On prend des alliés. Ici, la compagnie Tireur de langue, dirigée par mon ami Arnaud Descarcins, qui est un vieux complice, n'est-ce pas? Et avec Renata Elik, comédienne, ils vont travailler donc dans les lycées. C'est financé par la région Île-de-France. On travaille dans les lycées pour faire travailler la lecture et la diction du poème. Voilà. Et donc, c'est dans ce dispositif-là que vous entendez ces trois jeunes. Et je crois que ça, c'est du travail de fond. Et je tiens depuis toujours à ce que le Printemps des Poètes soit d'abord ce travail de fond.
Eh ben merci Jean-Pierre Siméon. On vous libère parce que vous avez un rendez-vous très important pour que justement ce Printemps des Poètes arrive à sa 20e année et puis au-delà passe à l'âge adulte. Et nous recevons Renata Elik qui est donc la comédienne des Tireurs de langue, qui est cette compagnie qui est associée au Printemps des Poètes et qui donc travaille dans la classe de Madame Jolie Matondo et qui va prendre place aussi autour de cette table, pour que nous parlions un petit peu de ce dispositif particulier parmi les milliers de choses qui se font avec et autour du Printemps des Poètes. Il y a ces classes qu'on appelle des classes de primo-arrivants, mais je pense que quand on célèbre le Printemps des Poètes, on a peut-être envie d'avoir une autre langue que celle administrative. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'exil, de réfugié, parce qu'au fond, c'est quand même aussi ça. Voilà, vous êtes enseignante dans cette classe. En deux mots, le dispositif, je crois que ça dure sur une seule année scolaire, c'est ça?
Exactement. Au lycée, les élèves sont accueillis pendant un an. Donc, c'est une classe...
Quel que soit leur âge.
Alors, entre 16 et 18 ans. Donc, ce sont des jeunes, voilà, qui ne sont plus dans l'obligation scolaire en France, parce que le droit scolaire s'arrête à 16 ans. Donc, ils sont pris en charge, ceux qui ont entre 16 et 18 ans, ils sont pris en charge au lycée. Donc, pendant un an, on essaye de rattraper les compétences scolaires exigées en France. Et ensuite, ils vont intégrer, une classe de seconde générale ou seconde professionnelle, ou un CAP en fonction de leur projet professionnel.
Alors j'ai entendu dire que ces classes par un professeur qui enseigne aussi dans ces classes, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, parce qu'on trouve des adolescents qui sont dans l'enthousiasme et le désir d'apprendre et de découvrir comme en maternelle. C'est-à-dire que ce sont des ados à tout point de vue, mais alors quel bonheur qu'ils ont d'apprendre. Et j'ai appris par cette enseignante assez dépitée que ce dispositif qui fonctionnait bien est menacé ou en tout cas transformé de telle manière que ça menace effectivement la qualité de cette année-là essentielle si on veut accueillir. Et au-delà, si on veut que ces jeunes gens soient libres dans notre pays, c'est-à-dire libres parce qu'avec des compétences linguistiques et au-delà.
Avec un projet professionnel construit.
Ou intellectuel.
Oui, exactement. Alors, on accueille de plus en plus de jeunes mineurs isolés. Et dans le département de l'Essonne où je travaille, il y a juste 5 dispositifs dispatchés dans 5 lycées du département. Donc on n'a pas suffisamment de moyens pour accueillir tous ces jeunes mineurs isolés qui arrivent en France.
Voilà. Bon, bah écoutez, peut-être que cette émission fera vibrer l'oreille des gens qui nous écoutent et qui défendront ces classes-là. Alors vous, vous êtes Renata Illic, comédienne, et vous travaillez avec eux, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ces classes-là pour essayer de... Pourquoi d'ailleurs il y a tant d'intervenants ?
Mais déjà, il y a pas seulement la langue française, il y a aussi la découverte culturelle, il y a l'échange culturel entre le jeune qui arrive et le jeune qui sont nés en France, qui vivent en France. Donc il y a vraiment ces côtés multiculturels, et il y a plusieurs projets qui sont faits autour de cette classe.
Donc, autres, voilà. Le vôtre que vous animez, Renata Illic. Alors, comment ça se passe ?
Alors, comment ça se passe ? Ce sont des ateliers qui sont construits sur 2 heures, comme une performance, en fait. Donc, on commence par tout un travail d'exploration corporelle, sensorielle, qui sont directement liés au poème. Et à la fin de ces 2 heures-là, ces jeunes qui ne parlaient peu ou pas français à leur arrivée, cet été,
il y a quelques mois,
finalement, sont capables, à la fin de ces 2 heures d'atelier, de restituer un poème et d'en faire parvenir le sens et la substantifique moelle.
Est-ce que vous leur demandez d'apporter des poèmes de poètes de leur pays d'origine, par exemple ?
Alors, je leur donne toujours la possibilité de choisir des choses qu'ils aiment, voilà.
Et maintenant, ils apportent des poèmes ?
Alors, c'est rare, parce que c'est vrai que dans les établissements scolaires, la poésie, elle est un petit peu boudée quand même. On a souvent la tendance à la pratiquer sous forme de récitation. Alors, je ne suis pas en manque de poèmes et de textes. C'est vraiment quelque chose maintenant qui, dans la compagnie des tireurs de langue, au bout de plus de 17 ans de pratique, on a quand même un corpus extraordinaire. Du coup, j'arrive et et on partage ça ensemble.
Alors, voilà. Peut-être que je vais me retourner vers Nassim Belrazi Antar. Alors, vous venez du Maroc,
exactement,
non ? C'est ce qu'on m'a dit.
De l'Espagne. D'Espagne. Mais je suis d'origine marocaine.
D'accord. Donc, c'est déjà un long chemin. Oui. Un long chemin, et maintenant la France. Et vous avez abordé la poésie comment ? Avec bonheur, avec joie, avec crainte ? Oh là là, ça va être difficile la poésie ?
Pour moi, ce n'était pas difficile parce que j'ai déjà fait la littérature espagnole. Et je vois que ça m'intéresse, la poésie.
Quel est le poète espagnol, marocain, ou de n'importe quel pays que vous aimez particulièrement ?
Pablo Neruda, Miguel Hernández, et il y a plusieurs.
Alors là, vous avez choisi un poème d'André Rochedy qui s'appelle, enfin, extrait d'un recueil qui s'appelle Ma maison, c'est la nuit, aux éditions Chênes. Oui. Et c'est un très beau poème que vous allez nous lire.
D'accord.
Merci.
De ses mains qui dansent, elle tisse, inaïn, les seconds du silence. C'est sa manière à elle de tirer la langue au temps. À ceux qui la font passer pour folle, elle prédit, vous ne déchiffrerez jamais le chant du coquillage, parce que vous n'avez pas écouté plus loin que la mer et la mort. Il marchait la tête dans les étoiles, mais il gardait les pieds sur terre pour sentir, à chaque pas, votre le corps des sources. Qui me reconnaîtra ? Vous dont les yeux sont morts, qui m'écoutera? Vous qui avez la haine du silence, vous avez mis les menottes au vent. Tu sais, si tu m'oublies, tu ne reconnaîtras plus jamais ton visage.
Merci Nassim Belrazi Antar. Je suis émue par ce poème, à la fois pour ce qu'il dit et qui me paraît résonner particulièrement aujourd'hui avec la question de l'exil, des réfugiés, de cette mer qui se peuple dans son fond de tant de morts et de tant d'espoir qui n'arrivera jamais à la côte, mais aussi pour votre manière de le lire. Alors là, je merci vraiment. Et c'est vous qui l'avez choisi, pourquoi ?
Parce que j'ai trouvé que c'était une bonne histoire. Parce que c'est quelqu'un qui est, on dira, exclu de la société, qui reste tout seul. Et ça m'a touché et je voulais le lire.
Merci. Comment intervenez-vous, Renata Illic, vous qui êtes comédienne, pour faire travailler l'oralité ? On voit que la compréhension, évidemment, est claire pour chacun. Mais comment on passe à l'oral pour des gens qui, encore une fois, cet été, ne parlaient pas le français ?
Alors, quand on s'est rencontrés, effectivement, il y avait la barrière de la langue. Alors, j'ai commencé en fait par toute une série de jeux qu'on a développés maintenant au sein de la compagnie pour faire en sorte que, de faire en fait que le français soit leur propre langue et non pas une langue étrangère qu'ils allaient apprendre. Pas quelque chose qui est en dehors d'eux, mais quelque chose qui fait partie d'eux, tout comme leur corps. Et quelque chose qui leur appartient et non pas quelque chose qui est en dehors
d'eux. Donc le travail du corps me paraît essentiel.
Voilà. Alors on commence par exemple sur des jeux de prénoms et d'associations de sons. On sait qu'une voyelle et une consonne, ça fait un son. Et plusieurs sons ensemble, ça fait des mots. Et on avance et ça fait des phrases. Et on avance et on avance.
Et pour l'interprétation du poème, par exemple celui qui vient de nous lire Nassim, oui. Vous êtes intervenu ou pas?
Alors... je me positionne dans une pédagogie dynamique du savoir et non pas quelque chose de statique. Je m'explique. Ils ont l'habitude, en fait, de recevoir des informations au lycée et de les restituer sous forme de contrôle, d'interrogation, d'examen, etc. Nous, quand nous arrivons en atelier, nous nous mettons directement dans la dynamique d'écriture du poète, dans l'énergie fluide du poète qui est la volonté d'écrire. « Je suis un fleuve de sang qui parle », dit Borges. Et eh bien, c'est exactement ça. Du coup, nous n'avons pas besoin d'expliquer textuellement les choses, de faire d'explications de texte comme ils en ont l'habitude. Ils rentrent directement, de par le verbe et de par les verbes d'action, dans l'incarnation du poème. Si vraiment il y a besoin de s'arrêter pour expliquer à un moment donné un mot, parce que il y a des mots difficiles, ben on s'arrête. Mais sinon, il n'y a pas besoin.
Je parlais, c'est intéressant, de l'interprétation orale. C'est-à-dire, est-ce que vous intervenez sur le rythme, sur, voilà, sur des choses de ce type?
À aucun moment. C'est leur voix. C'est à travers eux que ça s'exprime. Et c'est le rythme de leur propre cœur qui parle. Je n'ai absolument pas besoin de faire ça. Nous travaillons sur un contact direct. Sensoriel avec le poème.
Alors c'est pour ça que vous nous avez touché directement, Nassim, mais vous aussi, d'Olivera tout à l'heure. Hein, c'est vraiment quelque chose qui passe de cœur à cœur, je crois, d'imaginaire à imaginaire aussi. Et je vois dans vos regards tout l'espace qui est ouvert et j'en suis vraiment heureuse. En tant que professeur, je lis Matondo dans ces classes-là. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce que vous leur apportez beaucoup, évidemment, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous?
Mais déjà, ça m'apporte énormément de choses. Hein, ça m'apporte aussi de voir un peu la chance que j'ai eu, moi, d'avoir grandi dans une société où j'ai eu droit à l'éducation, où j'ai, voilà, tant que fille, j'ai pas été exclue de l'école parce que je pouvais pas porter une barbe. Donc, en gros...
Vous étiez dans quel pays, vous ?
J'ai grandi en Allemagne. Mmh. Et voilà, je suis arrivée très jeune. Et là, je rencontre deux jeunes filles qui me parlent en me disant « Mais madame, je sais même pas écrire mon nom. Parce que, pourquoi ? Mais parce que je suis une femme. Parce que je suis une fille. Et dans mon pays, les filles n'ont pas accès à l'éducation. » Donc c'est le contact avec ces élèves qui m'ont aussi permis de réfléchir et de m'activer justement sur le droit de scolarisation de jeunes filles, hein, dans des pays où les filles n'ont pas, n'ont toujours pas aujourd'hui au XXIe siècle l'accès à l'éducation.
Et la poésie, qu'est-ce que ça apporte dans votre enseignement, dans votre rapport à ces jeunes gens?
Alors la poésie, ça nous a apporté beaucoup de choses. Déjà, ça m'a permis de libérer la classe, de créer une dynamique, parce que Renata, elle a énormément travaillé avec les corps. Ils ont appris aussi à s'approprier leur propre corps. Parce que venant de d'autres cultures où les corps est quelque chose de tabou, ils ont appris vraiment à le toucher, le côté sentimental, le côté à accepter son corps comme étant quelque chose qui leur appartient et aussi l'expression corporelle.
Voilà. Et là, alors dans ces classes-là, ils sont combien ?
Aujourd'hui au lycée Baudelaire, nous avons 18 élèves primo-arrivants.
18 avec des langues très différentes et des lieux d'origine très différents.
Exactement, c'est assez drôle.
Et alors par exemple, je sais pas, vous pouvez tous répondre, mais est-ce que c'est agréable d'arriver dans des classes où il y a des gens qui viennent de, qui ne sont pas des Français encore, mais qui viennent de tous les pays? Est-ce que c'est agréable pour vous?
Oui, c'est très agréable.
Oui. Alors, Damanfi Camara, vous venez de Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Parce que vous pourriez avoir envie d'être dans des classes avec que des Français.
Dans cette classe où je suis, Je comprends plus ou moins plusieurs langues. On n'a pas les mêmes ethnies, on ne parle pas les mêmes langues. Ça m'apporte beaucoup de choses. Ouais. Et vous?
C'est une expérience d'avoir des gens qui viennent des différents pays, de connaître des coutumes, des langues, des gens qui habitent, par exemple, l'Afrique. C'est où la plupart on est arrivé là. Et ben, moi, je suis content d'être aussi de la classe de Madame Matondo.
Et vous, peut-être, d'Olivera?
Eh bien, j'apprécie cette classe parce qu'elle nous permet de découvrir d'autres cultures, d'autres origines. Ça nous permet d'échanger certaines choses sur notre pays, d'apprendre d'autres langues, d'apprendre des plats gastronomiques, des systèmes politiques différents, de savoir dans tel pays, non, les femmes n'ont pas accès à l'école, dans certains pays, ceci. Comme dans certains pays, on existe encore les femmes, dans d'autres, on n'existe pas. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend, et on apprend encore les cultures françaises, ça nous permet d'enrichir nos cultures générales.
Alors, peut-être votre poème, le dernier que vous nous offrez, donc d'Amanfi Camara, vous avez choisi Adonis.
Babel. Nous sommes venus bâtir un autre royaume. Nous sommes venus déclarer que la poésie est certitude, que la transgression est l'ordre. Aujourd'hui, le ciel a écrit son poème à l'encre blanche, et il l'a appelé neige. Le voyage m'a enseigné à lire le temps, tracé par la main du nuage. Nos corps sont écritus, chacun est le carnet de l'autre. D'où viens-tu? Comment et quoi? Ta terre est le royaume de l'asservissement, mais toi, tu es insoumis. Pourras-tu le demeurer? Pour toucher la lumière, tu dois t'appuyer sur ton ombre. Nos corps ne connaissent pas l'endu. Raconter est le nom de chacune de nos cellules.
Merci beaucoup, Amanfi Camara, pour ce magnifique texte d'Adonis. Vous aussi, vous l'avez choisi pour son affirmation. Vous le lisez avec beaucoup de conviction.
Oui.
Presque comme une revendication.
J'ai choisi cette thèse, c'est parce que c'est très émouvant et c'est intéressant.
Merci beaucoup. On espère que vous en écrirez aussi des poèmes, et pas seulement les lire. Bravo. Merci d'être venus tous à ce micro pour parler du 19e Printemps des Poètes, qui a l'honneur aussi sur notre chaîne depuis vendredi et encore tout aujourd'hui avec des dramatiques. Il y aura ce soir une saison au théâtre, Théâtre Dictature et Révolte, avec Christian Schiaretti. Il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous à 21h. De 21h à 23h, Théâtre et Compagnie, La Tragédie du Roi Christophe d'Aimé Césaire. Bref, France Culture honore, comme il le mérite, le 19e printemps des poèmes, des poètes et des poèmes. Je suis très émue par vous tous. C'était un vrai bonheur de vous recevoir. Bonne vie, belle vie, surtout à tous et à toutes. Les chemins buissonniers, ils s'arrêtent ici, mais vous pouvez les retrouver sur notre site à franceculture.fr. Vous retrouverez aussi tous les poèmes et toutes les coordonnées, toutes les choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous pouvez réécouter et télécharger l'émission. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe, Aline Paillet, Anne-Laure Chanel, Annie Comier, à la technique aujourd'hui, Guillaume Ledu. Je vous laisse en compagnie des informations. C'est l'heure du premier journal de la journée. Ah, j'ai oublié de citer La poésie sauvera le monde de Jean-Pierre Siméon. Ça sort demain ou après-demain en livre de poche, tellement que ça a eu de succès. Je vous conseille de le lire. Jean-Pierre Siméon, La poésie sauvera le monde, c'est en poche. Merci à tous, à dimanche prochain.